Salut à tous, mon nom est Lefèvre, Augustin Lefèvre. Je suis journaliste à Radio Classique, journaliste confiné dans mon QG. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, on va parler de l'agent secret le plus connu du monde. James Bond, l'espion britannique, parcourt le monde depuis des années pour vaincre des méchants toujours plus méchants. On en est à 24 films, la sortie du 25e, Mourir peut attendre, a été repoussée à l'automne. Aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul sur cette série, mais j'ai vraiment été un très grand fan de 007 pendant mon adolescence. J'ai vu tous les films, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai lu les livres. Et de toutes ces images, il y en a une qui est restée gravée dans ma mémoire plus que les autres. Nous sommes en 2008, c'est Quantum of Solace et sa scène de l'opéra. James Bond espionne puis combat les méchants rassemblés à une représentation de Tosca, l'opéra de Puccini. La musique éclipse le reste des sons, l'action sur scène fait écho à celle du film. J'ai vu ce passage des dizaines de fois et encore aujourd'hui, en préparant cet épisode, j'ai eu des frissons en le regardant. Et je me suis posé beaucoup de questions, notamment pourquoi est-ce que cette scène est si marquante? Pourquoi est-ce que c'est Tosca qui a été choisi et pas un autre opéra? Préparez vos gadgets et révisez vos recettes de cocktails, nous partons en mission pour y répondre. James Bond est né au début des années 50, sous la plume de Ian Fleming, romancier britannique qui avait la particularité d'être un véritable espion, officier du renseignement naval. Le premier roman de James Bond, Casino Royale, est publié en 1953. Il sera suivi par 11 autres et par deux recueils de nouvelles. Après la mort de Fleming en 1964, d'autres écrivains reprendront le flambeau. La série est dès sa naissance portée à l'écran, première adaptation en 1954. Alors certes, c'était à la télévision américaine et crime de lèse-majesté, littéralement, le plus britannique des espions devient Jimmy Bond, un américain. En termes de moyens, on est très loin de ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est révélateur des liens quasi fusionnels entre 007 et le cinéma. Il faut attendre 1962 pour le premier vrai film de James Bond. Nous sommes en pleine guerre froide, soviétiques et américains frôlent la guerre nucléaire. Et dans ce contexte, James Bond affronte le Dr. No avec Sean Connery dans le rôle de 007. C'est le troisième film, Goldfinger, qui permettra à la série de prendre l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Critique positive et réussite financière, Goldfinger obtient même un Oscar pour les effets sonores. On retrouve dès ses premiers films tous les ingrédients du cocktail James Bond, de la bagarre, des courses-poursuites dans des voitures très chères qui vont très vite, des paysages exotiques, des femmes qui meurent tragiquement, des méchants très méchants dont les préoccupations répondent à l'air du temps, la guerre froide ou le terrorisme, et une petite phrase culte.
Bond. James Bond.
James Bond a traversé les époques, il a résisté au passage des modes. 6 acteurs ont enfilé son costume. Cette saga, dont la longévité est exceptionnelle au cinéma, est toujours un énorme succès. Au total, 16 milliards de dollars de recettes et c'est le récent Skyfall qui arrive en tête des profits. Le dernier film, Spectre, a aussi très bien marché. On arrive à plus de 20 milliards de dollars si on prend en compte l'ensemble de la franchise, livres, jeux vidéo et produits dérivés. Pour comprendre le film au centre de cette émission, Quantum of Solace, il faut revenir à l'épisode qui précède, Casino Royale. Et ce n'est pas pour rien que celui-ci adopte le titre du premier livre. Il s'agit d'un reboot, d'une remise à zéro. Un nouveau départ avec un nouvel acteur, Daniel Craig. Retour au début de la carrière de l'espion, il obtient son fameux matricule 00, le permis de tuer. Bond affronte un banquier du terrorisme, Le Chiffre, lors d'un tournoi de poker et il rencontre la femme de sa vie, Vesper Lindt, la comptable, chargée de lui fournir l'argent pour jouer au poker.
Le M6 recrute des hommes mal dans leur peau, qui ne voient pas d'objection à sacrifier les autres afin de protéger le pays et la reine. Comme des ex, des services spéciaux, sourire facile et au montre hors de prix. Rolex ?
Omega.
Comme je viens de vous rencontrer, Je n'irai pas jusqu'à vous traiter de salaud au cœur de pierre.
Non, bien entendu.
Mais je peux imaginer sans peine que les femmes représentent plus pour vous des plaisirs à la chaîne que des objets de conquête. Alors si charismatique que vous soyez, Monsieur Bond, je compte bien veiller de près sur l'argent du gouvernement, plutôt que sur votre exceptionnel petit cul.
Vous avez remarqué.
Cette histoire se termine tragiquement. Vesper finit par se suicider puisqu'elle a été obligée de collaborer avec les méchants et James Bond reste seul avec sa tristesse. Ce nouveau départ a été très bien accueilli par la critique. Casino Royale est considéré comme l'un des meilleurs James Bond et c'était pas gagné parce que les fans ont eu beaucoup de mal à accepter Daniel Craig quand son nom a été dévoilé. James Bond blond, shocking pour les puristes. Il l'accable de tous les noms, il le compare par exemple à un officier du KGB, mais ses fans seront rassurés en voyant le film. 007 réussit son entrée dans le 21e siècle, il devient plus dur, plus tourmenté, il y a un peu moins d'humour et de gadgets. Bref, autant vous dire que l'attente était haute pour Quantum of Solace, qui, pour la première fois de la série, était annoncé comme une suite directe. Sauf que, eh bien, la critique estime que c'est un échec artistique, pas commercial. Le film a très bien marché au cinéma, même s'il a fait moins bien que Casino Royale. Il raconte la vendetta de Bond, qui cherche à se venger après la mort de Vesper. Il affronte cette fois Dominic Green, joué par Matthew Amalric, un méchant sans cicatrice, sans chat sur les genoux ou crochet à la place de la main, un homme d'affaires qui cache derrière sa fondation pour l'environnement l'ambition de contrôler les ressources en eau de la planète pour gagner plus de pouvoir et plus d'argent. Pour cela, il n'hésite pas à vouloir renverser le régime bolivien pour installer à la place un dictateur qui pourrait l'aider. Ça, c'est un résumé simplifié, mais l'intrigue est vraiment difficile à comprendre. Il y a assez peu de dialogue et le montage est ultra rapide, ce qui brouille la lisibilité des scènes d'action. Dès les premières secondes du film, on se retrouve dans une course-poursuite qui donne la nausée. Preuve de cette volonté de rapidité, c'est le plus court de tous les films James Bond, 1h46. Les trois autres avec Daniel Craig durent autour de 2h30. Il y a trois principales raisons qui expliquent cet échec. La première, c'est le fait que les producteurs ont voulu capitaliser sur le succès de Casino Royale en lançant une suite extrêmement rapidement après. Le film devait sortir en mai 2008, un an et demi après Casino Royale. Rapide, trop rapide pour une superproduction comme un James Bond, le premier réalisateur envisagé refuse de travailler avec un délai pareil. À titre de comparaison, il y avait eu 4 ans entre Meurt un autre jour et Casino Royale. Et il y a eu ensuite 5 ans entre Spectre et Mourir peut attendre. Les producteurs se sont rendus à l'évidence, ils ont accepté de décaler la sortie un petit peu à la fin de l'année 2008, et c'est finalement le réalisateur Mark Forster qui est désigné en juin 2007. Avec un tournage dans le monde entier, en Angleterre, en Italie, en Autriche, au Chili, eh bien à la fin il ne reste que 6 semaines pour le montage, ce qui est très peu. Mark Forster, c'est justement le deuxième problème du film. Ce cinéaste germano-suisse est né en 1969 et au milieu des années 2000, c'est un réalisateur qui a déjà 2 Oscars et qui vient d'obtenir un succès critique pour Les Cerfs-Volants de Kaboul, film sur l'Afghanistan réalisé avec 20 millions de dollars, c'est 10 fois moins que le budget de Quantum of Solace. Forster est contacté par les producteurs du film qui veulent donner une dimension artistique à la saga d'action. Il accepte le rendez-vous par courtoisie, mais il a la ferme intention de refuser. Il ne veut pas du tout faire du mainstream du grand public. Il finit par accepter en disant qu'il ne voulait pas avoir de regrets et qu'il pensait que ça l'aiderait à financer ses prochains longs-métrages. Sauf qu'il n'a jamais réalisé de film d'action auparavant et qu'il n'a jamais travaillé sur un projet d'une telle ampleur. Aujourd'hui, il ne désavoue pas son film, mais il a refusé de recommencer et de réaliser Skyfall ensuite. Mais après tout, le réalisateur n'est pas seul pour faire un film. Il a une énorme équipe, surtout dans une franchise telle que James Bond où les producteurs jouent un rôle énorme. La troisième raison tient donc au contexte. Fin 2007 et début 2008, Hollywood a été marqué par une grande grève des scénaristes. Cela a eu des conséquences sur beaucoup de films et de séries. Cette grève commence alors que le script de Quantum of Solace n'est pas terminé. Sans scénario pour travailler, Forster songe à quitter le navire, il se ravise en espérant que ça ne durera pas, mais impossible d'embaucher des auteurs, le réalisateur et Daniel Craig sont obligés de travailler ensemble tous les deux sur le scénario, l'acteur n'y va pas par quatre chemins pour décrire la situation, « We were fucked », dira-t-il, ce qu'on pourrait traduire par « Nous étions bien embêtés ». J'étais là à essayer de réécrire les scènes, mais je ne suis pas un auteur. Le film ne devait pas être une suite, mais ça a fini par le devenir. Il commence juste là où Casino Royale se termine. Mark Foster le reconnaît. À cause de cette grève, il est obligé de recourir à des cache-misères. Je me suis dit, dans le pire des scénarios, si la grève continue, je vais faire comme un de ces films de vengeance des années 70, de l'action et beaucoup de coupes pour camoufler le fait qu'il y a beaucoup d'action et pas tellement d'histoire. Et le pire des scénarios, c'est ce qui s'est finalement passé. Cette grève, c'est le coup de grâce à une production qui partait mal, avec un délai trop court et un réalisateur qui n'avait jamais fait de film d'action. Heureusement, tout n'est pas à jeter dans Quantum of Solace. L'idée de la lutte pour les ressources en eau est assez intéressante. Et puis, il y a cette scène au cœur de cet épisode, cette scène à l'opéra qui arrive à la 39e minute du film, une scène très importante car elle marque la première confrontation entre James Bond et le méchant. Nous sommes à Brégance, en Autriche. C'est là que tous les ans, depuis la Seconde Guerre mondiale, se tient un festival de musique classique en plein air, avec une particularité, la scène flotte sur le lac de Constance. C'est la plus grande du genre dans le monde et ça permet des décors extravagants et gigantesques, idéal pour tourner un James Bond puisque la série a toujours aimé le grandiloquent, que ça soit une base secrète dans un volcan, un palais tout en glace ou un radiotélescope. Là, c'est une représentation de Tosca de Puccini avec un gigantesque œil bleu qui domine la scène. Les différents membres de l'organisation criminelle Quantum décident d'organiser une réunion secrète et ils choisissent de faire ça à l'opéra. Pas de raison particulière pour justifier ça, comme ils sont riches et puissants, c'est à l'opéra qu'ils se réunissent, puisque c'est bien connu que tous les amateurs d'art lyrique sont riches, puissants, un peu élitistes et dans le fond très malfaisants. Associer cette pratique culturelle et les préjugés sur son public à un ensemble de personnages secondaires, ça permet de les caractériser facilement. J'aurai l'occasion de revenir dans d'autres épisodes sur ce cliché du cinéma hollywoodien qui est le méchant amateur de musique classique. Sur la forme, toute cette scène repose sur les parallèles. Parallèles entre le spectacle de l'opéra et l'action dans la salle, et parallèles entre James Bond et Dominic Green. Elle commence par une introduction qui construit la tension. On assiste à la préparation du spectacle. Le décor est monté, les chanteurs maquillés. James Bond arrive par l'entrée des artistes, il est seul. Dominic Green, lui, commence par la soirée mondaine où il discute avec de nombreuses personnes. En coulisses, les chanteurs s'habillent, James Bond vole un smoking et se retrouve sur un balcon qui surplombe cette soirée mondaine. Les deux personnages se rapprochent, Bond observe de loin son ennemi. Les dialogues sont rares, étouffés. La musique répétitive participe à la construction de la tension. On voit ensuite Bond et Green, tous les deux en smoking sur fond blanc, mettre l'un après l'autre une oreillette dans l'oreille. Tout est prêt, la représentation peut commencer. Green est installé dans sa loge, il regarde le spectacle les pieds sur la rambarde. Bond trouve un escalier en coulisses qui permet d'observer la salle de haut. Il est au-dessus de la scène, il regarde donc vers la droite. Green regarde le spectacle donc vers la gauche. On a presque l'impression qu'ils se regardent l'un l'autre. La confrontation approche et sur scène, un homme chante en écartant les bras. Les membres de Quantum commencent à discuter de leur plan machiavélique pendant la représentation grâce à leur oreillette.
How much more pipeline do we need?
Il est question de pipelines à acheter et de l'urgence de la situation en Bolivie. Sur scène, un homme est tiré d'un cachot et amené au milieu par d'autres hommes en imperméable noir. James Bond, qui écoutait la conversation grâce à l'oreillette qu'il avait subtilisée, décide d'intervenir. Il dit au méchant qu'il devrait trouver un meilleur endroit pour se rencontrer.
Can I offer an opinion? I really think you people should find a better place to meet.
Quand il intervient, les différents conspirateurs se lèvent, ce qui permet à l'espion de les repérer et d'enregistrer leur identité. lui aussi quitte la salle. Pendant ce temps sur scène, le prisonnier a été mis dans une fosse. Quatre hommes s'installent de chaque côté avec un pistolet dans la main. L'exécution s'approche. James Bond arrive dans le hall et là, il tombe nez à nez avec Dominic Green. Sur scène, les pistolets sont chargés. Green écarquille légèrement les yeux. Il ne dit rien. D'un geste de la tête, il lance son garde du corps derrière Bond. Fusillade dans le restaurant. Sur scène, l'homme qui chantait les bras écartés se tient derrière une femme. Cette femme le poignarde. Il tombe, il est mortellement blessé. Bond est pourchassé, il saute dans un escalier et il finit par maîtriser son poursuivant. Il le désarme et lui demande pour qui il travaille. Va te faire voir. James Bond le jette du toit de l'opéra. Il atterrit sur la voiture de Green qui le fait tuer. La musique s'arrête progressivement. Fin de la scène. Si vous connaissez Tosca, ce que je viens de vous faire entendre vous a peut-être paru étrange. Car c'est un puzzle de plein de petits passages de l'opéra montés pour coller au mieux au propos du film. D'abord la fin de l'acte 1, puis un bout de l'acte 3 et enfin un extrait de l'acte 2. Pour y voir plus clair, je vais recoller les morceaux. Tosca est un opéra de Puccini créé en 1900. Giacomo Puccini est l'un des plus célèbres compositeurs italiens. Il a vécu de 1858 à 1924. Il a laissé une dizaine d'opéras, dont 4 font partie du top 20 des opéras les plus joués dans le monde. La Bohème, Madame Butterfly, Turandot et donc Tosca. Un opéra en 3 actes inspiré de la pièce La Tosca du dramaturge français Victorien Sardou qui n'a, soit dit en passant, aucun lien avec Michel. Au cœur de l'intrigue, 3 personnages, la cantatrice Floria Tosca, le peintre Mario Cavaradossi et le chef de la police, le malfaisant Baron Scarpia. C'est une histoire d'amour qui se termine mal. Tosca et Cavaradossi sont amants, mais Scarpia veut séduire Tosca. Et il arrête Cavaradossi, qui a aidé un prisonnier à s'évader, il le torture. Scarpia propose un marché à Tosca. Si elle accepte de passer une nuit avec lui, le peintre sera libéré. Tosca, désespérée, dit oui. Problème, son amant a déjà été condamné à mort et Scarpia ne veut pas perdre la face. Il faut donc trouver un stratagème. Le chef de la police promet que l'exécution aura lieu avec des balles à blanc. Le peintre devra faire semblant d'être mort. Tosca obtient même un laissez-passer pour pouvoir s'enfuir ensuite. Pendant la discussion, elle voit un couteau sur la table, elle s'en saisit et elle poignarde Scarpia. Puis elle court rejoindre Cavaradossi. Tosca assiste à l'exécution, Cavaradossi tombe, elle s'avance vers lui, lui demande de se relever, puis elle aperçoit le sang. Tosca a été dupée par Scarpia, il n'avait jamais envisagé d'épargner son prisonnier. Folle de douleur, Tosca se jette dans le vide, rideau. Dans Quantum of Solace, un des méchants déclare que Tosca n'est pas pour tout le monde. Au contraire, je pense que c'est un très bon opéra pour découvrir le genre. L'histoire n'est pas trop compliquée, ça dure un peu plus de 2 heures, ce qui est court pour un opéra. Puccini utilise les leitmotifs, ces phrases musicales associées à un personnage qui facilite la compréhension, et on y retrouve certains des airs les plus connus de l'histoire de l'opéra, comme « Vici d'arte, j'ai vécu d'art », air de Tosca quand le baron Scarpia lui propose son marché. « J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour, pourquoi Seigneur m'en récompenses-tu ainsi ?» Thank you. Un peu plus tard, le déchirant « Eluche Van les Stele » chanté par Cavaradossi dans sa cellule alors qu'il attend son exécution. Les étoiles brillaient, elle entrait et me tombait dans les bras. L'heure s'est envolée, je meurs désespéré et je n'ai jamais autant aimé la vie. » Dans Quantum of Solace, on entend d'abord le Te Deum chanté par Scarpia. C'est lui qui ouvre les bras au début de la scène. Ce Te Deum, il est chanté à la fin du premier acte quand Scarpia annonce qu'il va tuer Cavaradossi et qu'il veut séduire Tosca. Il fait étalage de sa puissance. Puis on nous montre l'exécution de Cavaradossi au troisième acte par les quatre hommes au bord de la fosse. Et enfin, retour au deuxième acte, Tosca poignarde Scarpia. Un montage dans le désordre qui permet d'adapter l'histoire de l'opéra pour qu'elle fasse écho à celle de James Bond, puisque dans cet ordre, Tosca venge la mort de son amant, comme 007 qui veut venger la mort de la seule femme qu'il a aimée, Vesper. Il finira par trouver le responsable à la fin du film, mais il refusera de le tuer, conscient que cela ne changerait rien. Ce parallèle est évident quand on est amateur d'opéra. Il l'est beaucoup moins quand on ne connaît pas Tosca, mais même sans connaître, on trouve ça extrêmement badass, impressionnant. On comprend bien qu'il y a un lien entre ce qui se passe sur scène et la confrontation entre Bond et Green. On est saisi par la musique, cette musique lente qui étouffe les cris dans la dernière partie. James Bond semble tellement pris par sa colère qu'il en oublie la réalité. Cette musique lente, elle contraste avec le montage qui devient de plus en plus rapide. Certaines images sont quasiment subliminales, tellement elles sont brèves. Ici, c'est assumé, le réalisateur cherchait à produire l'effet d'un rêve. C'est ce qu'il explique dans une interview dans laquelle il raconte la naissance de la scène. Tout est parti de la recherche de décors incroyables. Cette séquence devait ressembler à une réunion des Nations Unies, une grande salle avec des gens qui discutent dans différentes langues. Intéressant, mais déjà vu, je n'y arrivais pas. Quand j'ai vu les décors de l'opéra, le grand œil bleu m'a tout de suite rappelé les yeux de James Bond. Et je savais que ça fonctionnerait parce que c'était Tosca, qu'il y avait un parallèle avec notre histoire. Donc je me suis dit que je pourrais avoir l'opéra d'un côté et James Bond de l'autre, dans une scène d'action qui ressemblerait à un rêve qui serait déconnecté du réel. Cette référence artistique à l'opéra permet donc une mise en abîme qui approfondit l'action, qui représente l'état d'esprit de James Bond. C'est une vraie réussite esthétique puisque la musique emporte le spectateur qui en vient presque à oublier ce qui se passe réellement, une fusillade dans le restaurant bondé d'une salle de concert. Ça fonctionne et cette scène a été très bien accueillie. Pour certains, c'est la seule réussite du film. Le journal allemand Der Spiegel commence ainsi sa critique. On n'avait jamais vu autant d'intentions artistiques dans un James Bond. Dans ce qui est probablement la scène la plus puissante de ce nouveau film, Forster fait d'une fusillade à l'opéra un fascinant ballet de mort et 007 n'est qu'un des danseurs. Au-delà de cette utilisation, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette scène est aussi là pour tenter d'ancrer le cinéma d'action dans une tradition plus ancienne et donc d'obtenir une certaine légitimité. C'est une analyse personnelle, j'ai pas trouvé de document là-dessus, mais en fait je suis persuadé que le film nous dit « Regardez ». Ce que je vous montre existait déjà dans Tosca, un des meilleurs représentants de l'opéra de la grande musique. Cette justification, elle est rendue nécessaire par l'accueil réservé à Casino Royale qui, comme je l'ai dit, était en rupture avec les précédents films. Plus brut, il a été jugé trop violent par certains à la sortie. Le journal Le Monde titre ainsi sa critique « Casino Royale surenchère de violence pour James Bond ». La suite, le plus huppé des agents secrets de Sa Majesté, cogne désormais comme Arnold Schwarzenegger. James Bond devient plus violent, James Bond se fait torturer, mais Quantum of Solace nous rappelle que ça existait déjà un siècle auparavant dans Tosca, Cavaradossi se fait torturer par Scarpia, les exécutions à l'arme à feu, ça existait déjà, les méchants sadiques, ça existait, la vengeance, ça existait, et le film semble poser cette question, pourquoi refusez-vous d'accepter du cinéma ce qui vous semble normal dans un opéra qui est en plus reconnu comme l'un des meilleurs du genre? Quand on fait cette liste de tout ce qui existait déjà, eh bien on se rend compte que Tosca avait déjà beaucoup de caractéristiques d'un blockbuster, à tel point que le compositeur hollywoodien Eric Wolfgang Korngold a dit de cet opéra que c'était la meilleure musique de film jamais écrite, et qu'un musicologue d'Oxford en parle comme d'un prototype du film de divertissement de masse. On pourrait même considérer que cet opéra populaire est l'un des points de bascule vers le cinéma, qu'il fait le lien entre les deux formes d'art, puisqu'il est créé au tout début du XXe siècle, au moment où le cinéma apparaît, et petit à petit, le public se détournera des salles de concert pour fréquenter les salles obscures. Mais le cinéma n'oubliera pas de retourner régulièrement à l'opéra, comme cet exemple nous l'a montré. Pour résumer cette émission, l'utilisation de Tosca dans Quantum of Solace permet de donner de la profondeur à une scène d'action. Ce rapprochement est né presque par hasard de la recherche d'un décor grandiose, mais l'opéra s'insère parfaitement dans le film. La vengeance de Bond trouve un écho dans celle de Tosca. Cette scène est l'une des seules réussites de ce film qui devait apporter un côté artistique à la saga, mais qui a été plombée par des conditions de production très difficiles. C'était Retour vers le classique, merci d'avoir écouté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur radioclassique.fr. Vous retrouverez sur l'article dédié à cette émission les références que j'ai citées. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rater aucun des prochains épisodes. Prenez soin de vous et à bientôt !